Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la librairie Filigrane. Donc pour la présentation, comme vous l'avez entendu, de la collection Travaux pratiques, une nouvelle collection que lancent les presses universitaires de France et qu'elles ont bien voulu, par je ne sais trop quelle inconscience, me confier. Voilà, alors ce soir, contrairement au programme annoncé, il n'y a qu'un seul des deux auteurs qui sera présent, Camille Toledo, qui est venu pour présenter ce livre que je vais vous montrer malgré tout, Visiter Fleurkistan, les illusions de la littérature monde, qui est un livre consacré à une réponse au manifeste des étonnants voyageurs, qui avait fait couler, vous en rappelez, pas mal d'encre au milieu de l'année passée. Voilà, ben Camille Toledo, malheureusement, n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Il sera demain soir à 18h30 à l'ISELP, l'Institut pour l'étude du langage plastique qui se trouve avenue de Waterloo, c'est ça ?
Oui.
Boulevard de Waterloo. Voilà, si jamais vous venez, vous désirez le rencontrer et l'entendre parler de son livre. Mais ce soir, je suis très content d'avoir parmi nous Pascal Chabot. Donc Pascal Chabot qui est l'auteur d'Après le progrès. Vous connaissez j'imagine Pascal Chabot. Pascal Chabot est philosophe et écrivain. Après un parcours au Fonds national pour la recherche scientifique à l'ULB, une thèse sur la philosophie de Gilbert Simondon, thèse qui a donné lieu à un très bel ouvrage Chevrin en 2003, La philosophie de Simondon. Donc Pascal Chabot travaille pour l'instant auprès de la chorégraphe Michel Noiret, dont il est conseiller artistique, et il enseigne aussi à l'IEX. Alors Pascal Chabot qui prépare un roman, mais chut, c'est un secret, et un beau livre sur la chorégraphe Michel Noiret, apparaître à la Renaissance du Livre, eh bien, a donné à la collection Travaux pratiques son nouvel essai qui s'intitule donc Après le progrès, une très belle méditation extrêmement stylée sur cette question qui est une question très difficile, très délicate et très lourde. Et pour entamer la présentation de ce livre et discuter avec lui de ce livre, j'aimerais commencer par lui poser une toute première question assez évidente. Au vu de l'actualité éditoriale et intellectuelle qui ne cesse d'insister et de repartir à l'attaque contre Prométhée, contre la notion de progrès, d'insister sur le lien qui existe entre progrès, développement scientifique et technoscientifique et aller jusqu'au totalitarisme. Il y a certaines thèses qui soutiennent le lien direct entre progrès et camp d'extermination. Voilà, face à cette notion dont on cesse de nous redire, qui est une notion méchante, mauvaise, héritée du 19e siècle, ce 19e siècle dont Pierre Larousse, dans son grand dictionnaire universel, avait donné cette image caricaturale. Voilà, pourquoi alors le progrès en 2008 ?
Merci Laurent pour cette présentation et merci à vous tous d'être là. C'est évidemment une question qui nous fait rentrer directement dans le vif du sujet. Il me semble que la question du progrès est une question centrale et une question qui cristallise aussi bien les adhésions irréfléchies que les peurs, les moins pensées. C'est Paul Valéry qui, dans ses regards sur le monde actuel, disait qu'à l'idole du progrès, à la croyance du progrès, s'était ajoutée la croyance en la malédiction du progrès, ce qui fait deux lieux communs. Et je pense que nous en sommes souvent là intellectuellement, en affrontant en nos esprits ces deux lieux communs ou ces deux croyances mal analysées pour le progrès d'une part, contre le progrès de l'autre. J'ai essayé d'aller un peu plus loin et en allant plus loin, en essayant de dépasser ces deux lieux communs, je me suis rendu compte que c'était souvent dans les mêmes consciences et pour les mêmes personnes que l'adhésion et la répulsion par rapport au progrès cohabiter. Et je pense que dans la plupart de nos vies, nous sommes d'une part évidemment grands consommateurs de progrès, désireux, voire impatients, voire fâchés quand la technique ne suit pas ou quand les sciences pourraient aller plus loin. Donc cet aspect extrêmement progressiste nous habite. Et d'une autre part, d'un autre côté, la crainte la phobie nous habite aussi. Nous héritons évidemment de toutes les diatribes. Tu parlais de Pierre Larousse. Nous héritons de ces diatribes-là antiprogressistes, de celles de Baudelaire aussi. Il ne faut pas oublier que des poètes comme Baudelaire étaient furieux par rapport au progrès. Je lisais encore dans Mon cœur mis à nu, Baudelaire écrit: la croyance dans le progrès est une croyance de paresseux, c'est une croyance de belge. Bon, quand on sait que Baudelaire avait cette opinion par rapport à la Belgique, dès qu'il élaborait quelque chose, qu'il élaborait un homme ou une femme, il voyait chez lui ou chez elle une Belge. Bon, traiter le progrès de croyance belge est profondément l'acmé, disons, de la diatribe. Et toute une série d'autres auteurs du 19e, évidemment, sont nourris de cette peur viscérale. Tandis que de l'autre côté, des auteurs comme Hugo et bien d'autres au 19e toujours, voient dans le progrès, évidemment, le vecteur d'émancipation du genre humain, pensant que le progrès technique et scientifique s'accompagnera toujours d'un progrès moral. Bon, ces deux tendances, à mon sens, cohabitent dans nos consciences contemporaines. Je ne pense pas qu'il y ait d'une part des progressistes et d'autre part des antiprogressistes. Je crois que c'est dans nos propres cerveaux que ces deux tendances cohabitent. Et si l'on se réfère aux mythes, et je pense que les mythes sont toujours actifs, le mythe fondateur, en l'occurrence, est celui de Prométhée dont tu parlais. Il est clair qu'il y a un grave problème dans ce mythe de Prométhée. Prométhée à qui, faut-il le rappeler, qui vole le feu, qui vole le feu aux dieux, bien sûr, pour le donner aux hommes. Il faut bien voir que Prométhée, qui est le dieu qui, dans tout l'imaginaire occidental, est devenu la figure tutélaire du progrès, il faut bien voir que Prométhée était pris dans une situation piégeante. Quoi qu'il fasse, Prométhée est toujours coupable. Qu'il vole le feu, il est coupable d'avoir trahi les dieux. Qu'il ne le vole pas, il est coupable d'avoir laissé l'humanité nue, c'est-à-dire en passe d'être submergé par la nature. Double culpabilité, donc, double lien, comme disent les théoriciens de Palo Alto, qui m'a semblé utile d'analyser pour s'en défaire. Il faut abandonner, à mon sens, la culpabilité inhérente à notre condition d'humain forcé de progresser, ça veut dire étymologiquement forcé de marcher en avant, puisque progrédit, ça veut dire je marche en avant, tout simplement. Et il faut se débarrasser de cette culpabilité pour peut-être s'embarrasser, parce que ce serait trop facile si on pouvait se débarrasser tout simplement, mais pour peut-être s'embarrasser d'une autre question plus intéressante que celle de la culpabilité, qui est celle du sens, et en l'occurrence du sens du progrès. C'est la démarche que j'ai essayé de suivre dans tout cet ouvrage.
Alors, pour se tourner vers la question du sens quand il est question de progrès, une distinction très importante revient dans le livre qui le structure, cette distinction entre utile et subtil. Je crois que c'est une distinction qu'il faudrait immédiatement développer pour le rendre plus clair. Il y aurait d'un côté un progrès qui serait tout entièrement dédié à l'utile et qui négligerait par là même la question du sens. Et puis il y aurait un progrès ou des progrès sans doute subtils, c'est-à-dire dans lesquels le réseau du sens et de la technique serait tissé de manière beaucoup plus intime, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Il s'agit, à mon sens, de lutter contre un accaparement qui est absolument indu, c'est l'accaparement de la notion ou de la catégorie de progrès par les seules sciences et techniques. Les sciences et les techniques, clairement, sont devenues la matrice de tout progrès possible. Et chaque fois qu'on pense progrès, on se dit « Ah voilà, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est un progrès dans l'ordre de la matière. » Bien, cet accaparement est récent. Il est extrêmement récent, il date du 19e siècle. Et cet accaparement est également insidieux parce qu'il ferait croire qu'il n'y a pas d'autre progrès possible que celui qui passe par une amélioration des conditions matérielles de vie. Je pense qu'il est intéressant de réouvrir cette notion de progrès, dire qu'il n'y a pas un seul progrès, mais plusieurs progrès possibles, l'un comme tu sais le dire, dans le domaine de l'utile, de l'utilité, et l'autre subtil. Car enfin, quand on dit que le progrès scientifique et technique, c'est passer sous silence toute l'histoire de la philosophie. Il y a évidemment de grands débats. Y a-t-il des progrès en philosophie? Y a-t-il des progrès depuis Platon? Entre Platon et Hegel, y a-t-il un progrès? À mon sens, entre Platon et Hegel, il n'y a pas à strictement parler de progrès. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Nous sommes tellement envahis par une manie de comparaison, nous voulons toujours tellement comparer les choses les unes aux autres que pour nous dire il faut voir un progrès dans la philosophie. Il n'y a donc pas de progrès entre penseurs. Par contre, toute l'histoire de la philosophie, à mon sens, et tout le cheminement d'un philosophe est la mise en route d'une démarche de progression pour l'individu qui lit cette philosophie ou pour le penseur qui la pense. Il est clair que le mythe de la caverne chez Platon, par exemple, est l'histoire du progrès de l'âme depuis son enchaînement dans le monde de l'illusion jusqu'à sa libération qui est chez Platon solaire. Il est certain que la philosophie de Hegel, par exemple, est une philosophie qui met en avant le progrès de la conscience. Donc, s'il n'y a pas de progrès entre philosophes, il y a tout de même un progrès qui est très important dans notre ouverture, dans nos perceptions et dans nos réflexions. À mon sens, donc, plutôt que de jouer l'anti-progrès contre le progrès, il faut réouvrir cette notion et la réouvrir à la question de la perception, donc aux philosophes et aux artistes, puisque c'est originairement eux qui ont forgé la notion et qu'il n'y a absolument pas de raison que notre époque, qui est fascinée par la matière, pense que le seul progrès possible soit un progrès dans l'ordre de l'utilité. Cela étant, je n'oppose pas non plus l'utile au subtil. J'essaie de trouver un type d'équilibre qui est un équilibre mobile entre les deux.
Est-ce qu'on pourrait dire, la question me vient comme ça, est-ce qu'on pourrait dire finalement que ce que tu as essayé de faire dans Après Progrès, plutôt qu'une politique du progrès ou une sociologie du progrès, sociologie philosophique bien sûr, que tu as pour ainsi dire tenté de faire une métaphysique du progrès qui tente de réinstaller plus que dans les consciences le progrès dans l'être, de donner une tonalité ontologique au progrès?
Je pense que si on avait choisi métaphysique du progrès comme titre, je ne sais pas combien on aurait vendu, mais peu, le mot étant, il faut le dire, tabou. Le mot métaphysique, qui est tout de même l'invention majeure de la philosophie, est un mot qui, depuis 1860 ou 1880, a une extrêmement mauvaise presse. Bon, qu'entendre par métaphysique, c'est un débat, je ne sais pas s'il faut l'ouvrir ce soir, c'est un débat extrêmement, extrêmement difficile, mais si on prend l'origine grecque, l'origine platonicienne de la métaphysique, on se rend tout de même compte que chez Platon, la métaphysique a trait au souci de l'âme. Voilà. S'il faut définir la métaphysique, c'est ce qui concerne le souci de l'âme. Il me semble que la hantise du progrès et les effets de cette civilisation scientifique et technologique aussi bien positif, car ces effets sont hallucinants dans le domaine médical, dans le domaine de notre cadre de vie. Jamais l'humanité n'a eu autant de possibilités que dans leurs effets positifs. Donc, il me semble que cette question a en effet trait au souci de l'âme. En ce sens, on peut parler de métaphysique. Moi, c'est un mot qui ne me dérange absolument pas. C'est un mot auquel on peut rendre son lustre, si tant est qu'il l'a perdu. Mais la métaphysique a 26 siècles, et je pense que ce n'est pas un siècle d'occultation qui aura gommé les 25 siècles précédents, sûrement pas.
Alors, maintenant qu'on est immédiatement monté très très haut, j'aimerais quand même insister sur un point très important pour moi, en tout cas dans Après le progrès, c'est que c'est un livre qui est remarquablement écrit et qui témoigne d'un souci réel du lien existant entre style et pensée. Hein. Vous connaissez la phrase de Buffon, le style c'est l'homme, mais le style c'est aussi plus profondément la pensée même. Alors, ce souci pour le style ou ce souci d'écriture, comment écrire le progrès ou comment écrire un progrès subtil ou comment inventer une écriture subtile du progrès, tout ça est fort présent dans Après le progrès et se traduit notamment par l'exploration de toute une série de figures littéraires, de romans. Pascal Chabot est un philosophe, il pense avec effectivement Hegel, Platon, il pense avec Simondon, avec Bergson, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il pense aussi avec les écrivains, il pense avec Golovanov, il pense avec la longue procession de Robinson qui ont jalonné la littérature occidentale. Alors j'aimerais poser une question très très vague, juste pour qu'il se laisse aller à explorer pour vous ces différentes figures. Comment peut-on penser avec Robinson ?
C'est d'une certaine façon Robinson qui pense pour les philosophes. Et je trouve que les écrivains sont de penseurs fabuleux, et ce sont des, pour les grands d'entre eux en tout cas, ce sont des penseurs qui inventent. Ce sont des penseurs qui ne veulent pas retrouver une idée, mais des penseurs qui construisent une nouvelle expérience. Et l'invention de Robinson est clairement une expérience. Elle est récente. De fou écrit Robinson Crusoe en 1719. Bon, c'est pas avant-hier, mais c'est quand même... c'est quand même la sortie de l'âge classique. Et Robinson Crusoe me fascine en tant que personnage. C'est pas de l'agoraphobie ni de la misanthropie, mais simplement par rapport au progrès, voir un homme seul sur une île déserte pendant 28 ans, comme c'est le cas de Robinson Crusoe, est très intéressant parce que un homme seul, c'est directement l'ouverture des possibles. C'est l'expérience, Robinson, c'est l'expérience du tout est possible. Et le tout est possible du premier Robinson, du Robinson britannique, c'est je vais refaire exactement la même chose que ce que je quitte. Pour moi, progresser, c'est sur une terre vierge, reconstruire l'Empire britannique. Donc, le progrès est vu par Daniel Defoe de façon assez, je dirais presque inconsciente, parce qu'il y a une charge mythique dans ce roman dont on peut penser que Defoe n'était pas totalement conscient, vu que certains de ses autres romans étaient par lui davantage valorisés. Il y a une charge mythique qui s'exprime et qui a été vue par exemple par un écrivain comme James Joyce. James Joyce, quand il parle de Robinson, bon, l'Irlandais qui parle de l'anglais, il écrit le véritable prototype du colonisateur britannique, c'est Robinson Crusoe. Et tandis que Vendredi, découvert un jour porte-malheur, est typiquement le symbole des races asservies. Il dit Robinson a... empoche simplement un couteau et une pipe, et avec ces deux outils, il devient charpentier, constructeur naval, remouleur, astronome, fabricant de parapluies, ministre du culte, toute une série de choses. Et il est vraiment, à cette époque, le symbole de l'âme anglo-saxonne et puis le symbole de celui qui identifie le progrès à la reconstruction de l'Empire britannique sur une terre vierge. Bon, c'est le progrès classique, c'est le progrès du XVIIIe siècle. Quand on va un peu plus près de nous, les années 70, sous la plume de Michel Tournier, invente un tout autre Robinson qui, au début, commence à vouloir administrer l'île comme son prédécesseur l'a fait. Ça veut dire il doit vivre, il plante du riz, il construit une hutte, il s'arrête le dimanche. Et il a cette constance au début que le Robinson de Fou avait, constance fascinante. Il ne faut pas oublier que le Robinson Crusoe et Daniel Defoe arrivent sur l'île avec du rhum. Il y a du rhum dans le bateau. Il y a deux barriques de rhum dans le bateau le bateau qui fait naufrage. Et après 28 ans, il lui en reste. Fabuleux. 28 ans sur une île déserte, il lui reste un peu de rhum. Donc, c'est le grand économe. Par contre, le Robinson de Tournier, après un début qui est un début d'administrateur de l'île, va devenir solaire, va retrouver les éléments, va retrouver la terre, va retrouver l'île. Et je me suis demandé alors que sont les îles désertes devenues. Et quand on voit chez Vassili Golovanov, qui est un auteur russe contemporain, qui écrit en 92, un livre qui s'appelle Éloge des voyages insensés et qui d'ailleurs a marqué également Camille Toledo dans son Visiter le Furkistan. On s'est retrouvé sur ce livre. Bon, lui décrit une île déserte qui est une île dans l'île de Kolguelf dans la mer de Barents, 3200 km au nord de Moscou, île plus ou moins inhabitable, une des dernières îles désertes. Et cette île, il la trouve comme une sorte de dépotoir à l'extrémité, c'est ça, à l'extrémité technologique du monde. Elle est l'île autour de laquelle viennent mourir les fleurons de la flotte polaire soviétique et d'autres navires. Elle est l'île, c'est un livre très dur, elle est l'île du décervellement, elle est l'île dans laquelle les quelques Kolguéviens qui habitent n'ont pour toute nourriture psychique que un feuilleton télévisé qui arrive en boucle, etc. Donc il y a un rapport très très pessimiste aux îles désertes dans la littérature contemporaine. Et si les îles désertes restent ce lieu d'invention du possible, eh bien le constat peut être assez noir et assez sinistre par rapport à ce qu'un certain progrès a fait aujourd'hui de ces confins-là du monde. En tout cas, la littérature contemporaine, me semble-t-il, est assez dure sur ce sujet.
Alors, des voix se sont élevées dans le public pour réclamer une petite lecture d'un petit extrait. Donc, si tu voulais choisir un petit passage.
Ouais, ce sont des voix bienveillantes, c'est gentil, mais c'est pas à quoi vous vous exposez. Vous êtes avec du temps ou... Je vais commencer par le commencement. J'ai eu l'occasion, lors d'une tournée avec la compagnie de la chorégraphe Michel Noiret, de séjourner quelque temps dans la petite ville de Tulle, près de Brive-la-Gaillarde. C'est un endroit sympathique, encerclé par sept collines qui empêchent la cité de s'étendre et la ramasse autour d'un centre piétonnier dont le cœur est incontestablement la librairie préférence face à la cathédrale. Le libraire, un Acadien d'une soixantaine d'années qui suivit naguère une femme jusqu'à cet endroit paisible, a rassemblé entre les quatre murs de son microcosme ce que la littérature universelle compte de plus précieux, la poésie de plus émouvant, la philosophie et les sciences humaines de plus intéressant. On y croise ce qu'on aime, on y découvre ce qu'on aimera. Peu de vilains dans la place, comme le dit le libraire Pierre Landry dans son Acadien natal, mais des vaillants qui chacun ont apporté à leur manière une pierre à ce qui n'est peut-être pas un édifice, car le plan d'ensemble est sans doute inexistant, mais qui n'est pas pour autant un simple tas de cailloux, car des filiations, des influences, des désaccords et des échos relie ses ouvrages les uns aux autres. Si les livres sont le miroir du monde comme les yeux sont celui de l'âme, il n'est pas encore l'heure. Ils disent forcément quelque chose sur le progrès. Il n'est pas encore l'heure de les ouvrir. Leur seule présence est parlante. Sur les rayonnages sont ainsi disponibles, parmi une dizaine de milliers de volumes, l'éloge des voyages insensés de Russe Vassili Golovanov, les essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire du Tchèque Jan Patochka, les 2033 pages de la monumentale structure de la théorie de l'évolution de Stephen Jay Gould, Diadorim du Brésilien João Guimarães Rosa, un essai illustré de photos sur Mulholland Drive de David Lynch et des foisons de livres d'images pour enfants. La présence simultanée de ces livres est un fait. Et je ne veux pas déduire d'un fait une idée. Mais il est probable qu'un érudit du Moyen-Âge, habitué à parcourir des centaines de lieux pour consulter puis recopier un ouvrage, aurait été accaparé si d'aventure un rêve qu'on ose appeler prémonitoire l'avait mené une nuit dans cet endroit par une profonde et jubilatoire méditation. Il est probable aussi que Gide, Larbeau, Valéry, qui œuvrèrent à travers l'art patient et généreux de la traduction à l'advenue d'une littérature qu'aucune frontière étatique ne puisse arrêter, auraient de même été surpris si un étrange rêve, comme il en arrive aux écrivains, les avait fait circuler dans Tulle au printemps de 2008 et les avait menés devant ces étagères remplies de possibles amis par l'accomplissement inespéré de certains de leurs désirs. Jan Patochka, torturé durant deux jours en 1977 par la police politique de Tchécoslovaquie, puis laissé pour mort sur le trottoir, le cœur épuisé pour éviter qu'il ne succombe à l'intérieur du commissariat, aurait aussi pu avoir droit, dans ses derniers moments, à cette promenade onirique dans une bourgade paresseuse mais libre. Peut-être aurait-il inféré de la présence de ses œuvres complètes dans un coin de la librairie que le difficile travail philosophique qu'il mena dans un minuscule appartement de souterrain de Prague n'avait pas été vain et que le nihilisme de la civilisation technologique qu'il voyait obscurcir toutes choses n'avait pas encore éteint toutes les lumières. Ce sont des rêves, bien sûr. Rares sont celles et ceux qui se promènent la nuit dans l'avenir, peu nombreux, celles et ceux qui ne sont pas chronocentrés, etc.